Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un univers vraiment fascinant, l'OSINT, l'Open Source Intelligence. C'est, comment dire, l'art de dénicher et d'analyser l'info publique sur le net.
C'est ça. Imaginez un peu l'océan d'Internet. Trouver la bonne info, la fiable, c'est pas si simple.
Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie aujourd'hui sur des extraits d'un cours, un MOOC OSINT-FR, qui détaille justement des techniques de base mais essentielles.
Oui, c'est un bon point de départ.
Alors, ce matériel couvre trois aspects principaux. D'abord, les moteurs de recherche. Comment aller plus loin que la simple recherche Google, quoi. Ensuite, les réseaux sociaux. Comment on s'y retrouve dans cette jungle pour y trouver des choses pertinentes.
Une vraie jungle, parfois.
Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, comment on vérifie tout ça, la fiabilité de l'information.
Le nerf de la guerre, en quelque sorte.
Notre objectif ici, c'est vraiment d'en extraire les pépites pratiques. Pour tout le monde, en fait. Que ce soit pour le boulot ou juste par curiosité.
Oui, des compétences de plus en plus utiles.
On dit souvent qu'Internet, c'est comme une bibliothèque sans bibliothécaire, non ? Une quantité folle d'infos, mais sans tri, sans garantie.
C'est une bonne image, oui.
Et puis, il y a cette blague. Le meilleur endroit pour cacher un truc, c'est la deuxième page de Google.
Ah oui, parce que personne n'y va jamais.
C'est ça. Alors, comment on fait pour creuser un peu plus ? Bon, allez, on attaque.
Allons-y.
On commence donc par les outils qu'on croit connaître par cœur, les moteurs de recherche. On tape deux, trois mots et hop, bah non, en fait, c'est plus si simple.
Non, c'est clair. Déjà, il y a le volume de données qui est juste énorme.
Oui.
Et puis le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, ça peut biaiser les résultats. Certains contenus sont poussés en avant, pas toujours les plus pertinents, objectivement.
Et il y a la personnalisation aussi, non ? Google nous montre pas tous la même chose.
Exactement. Ça filtre ce qu'on voit en fonction de notre historique, de notre localisation. Du coup, une recherche simple, ben, ça peut nous enfermer un peu.
Alors, comment on sort de ça ?
Eh bien, la clé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les opérateurs de recherche avancés. Ce sont des commandes spéciales qu'on ajoute à nos mots-clés pour guider le moteur plus finement.
D'accord.
L'idée, c'est d'être plus spécifique, d'éliminer le bruit, en quelque sorte. Par exemple, un opérateur super utile, c'est site. Ça permet de chercher uniquement sur un site web.
Ah oui !
Oui, par exemple, si on veut fouiller que sur osintaffaires.com, on tape site.osintaffaires.com et ensuite nos mots-clés. C'est très efficace pour explorer un site en profondeur.
D'accord, je vois.
Un autre qui est fondamental, c'est FileType. Ça permet de chercher des types de fichiers précis. On pense souvent au PDF, FileType.pdf pour les rapports.
Oui, classique.
Mais ce qui est parfois très très intéressant, c'est de chercher des FileType.xlsx, les fichiers Excel.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que parfois, on tombe sur des bases de données, des listes laissées en accès public, souvent par erreur, par oubli. C'est presque une faille humaine récurrente qu'on exploite là, l'oubli de sécuriser.
Incroyable ça.
Oui, et on peut aussi chercher des filetype.docs pour les fichiers Word ou filetype.pptx pour les présentations PowerPoint.
D'accord. Et il y en a d'autres, des opérateurs comme ça ?
Oui, bien sûr. Les guillemets. Entre guillemets, pour chercher une expression exacte, indispensable pour une citation, un nom composé, ce genre de choses.
Mm-hmm.
Et il y a aussi in-title. Ça cherche le terme uniquement dans le titre de la page web. Très utile pour trouver des documents spécifiques, genre in-titule, rapport annuel.
Et le truc, j'imagine, c'est de les combiner.
Exactement. C'est là que ça devient vraiment puissant. Combiner ces opérateurs, c'est comme ça qu'on affine au maximum.
Tu aurais un exemple concret ?
Bah, imaginons qu'on cherche un rapport PDF sur la collecte d'informations, spécifiquement sur le site osintfr.com. On pourrait taper site.osintfr.com, filetype.pdf, intitule, rapport, collecte d'informations.
Ah oui, là c'est précis. Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on appelle parfois les Google Docs ou juste des requêtes avancées. Ça permet de trouver des choses qui ne sont pas forcément sur la première page, justement. Ça montre bien que le but, c'est pas de trouver plus, mais de trouver mieux.
D'accord.
Mais attention, il faut aussi connaître les limites. Certains sites, ils bloquent l'indexation par les moteurs, donc leur contenu reste invisible.
Ah oui, exact.
Et même avec des opérateurs précis, on peut parfois avoir trop de résultats. Il faut affiner encore et encore. C'est un peu comme un entonnoir, quoi. Et puis, il y a toujours cette personnalisation dont on parlait. Pour essayer de neutraliser ça, au minimum, il faut utiliser la navigation privée. Et un VPN, ça peut aider aussi. En masquant l'adresse IP, ça réduit le biais lié à la localisation.
Bonne précaution à prendre.
Et surtout, il ne faut pas tout miser sur Google, hein. C'est essentiel de diversifier ses outils de recherche. C'est stratégique.
Pourquoi ? Ils ne sont pas tous pareils.
Non, pas du tout. Chaque moteur a son propre index, sa façon de classer les résultats, ses propres biais. Utiliser que Google, c'est voir le web par un seul trou de serrure, en quelque sorte.
D'accord. Et quelles seraient les alternatives intéressantes, alors ? Sans faire une liste à rallonge.
L'important, c'est le pourquoi on diversifie. Soit on cherche plus de confidentialité, soit des index différents, soit des fonctions spécifiques. Pour la vie privée, il y a DuckDuckGo qui ne trace pas et agrège plusieurs sources.
Oui, connu pour ça.
Pour des index différents ou une approche moins occidentale, on peut dire, Yandex est très fort, surtout pour l'espace russophone et sa recherche d'images inversées est excellente pour la vérif.
Ah, intéressant ça, la recherche d'images.
Oui, on y reviendra. Il y a aussi Bing de Microsoft qui a son propre index. Parfois, il trouve des choses que Google rate. Et puis, des plus petits comme Mojik qui essayent de construire leur propre index complètement indépendant.
Donc, l'idée, c'est de tester, de jongler un peu entre eux.
C'est ça. Et de savoir que la syntaxe des opérateurs peut changer d'un moteur à l'autre. Faut vérifier, tester.
D'accord, c'est noté. Maîtriser ses requêtes et varier les moteurs, c'est une bonne base. Mais une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'il y a plein d'infos ailleurs. Sur les réseaux sociaux, la fameuse jungle dont on parlait.
Oui, tout à fait. C'est l'autre grand gisement d'informations.
On dit souvent que c'est une mine d'or, mais aussi un terrain piégé. Pourquoi mine d'or, d'abord ?
Bah, à cause du volume incroyable de traces qu'on laisse tous, plus ou moins volontairement. Des opinions, des photos, des vidéos parfois géolocalisées, nos contacts, nos liens pros, les événements auxquels on participe. C'est une fenêtre immense sur la vie sociale, politique, personnelle.
Mais alors, pourquoi terrain piégé ? Qu'est-ce qui est compliqué ?
Plusieurs choses. Déjà, ce sont souvent des plateformes fermées ou semi-fermées. Elles contrôlent l'accès à l'info via leurs interfaces, leurs API. C'est pas le web ouvert. Ensuite, les algorithmes. Ils nous montrent ce qu'ils pensent pertinent pour nous, pas forcément toute l'info disponible. C'est une vision filtrée.
D'accord.
L'info y est souvent très éphémère, très liée à un contexte précis. Et puis, vérifier si c'est vrai, c'est un défi constant. Et bien sûr, il y a toute la dimension légale et éthique. On peut pas faire n'importe quoi. C'est crucial.
Et comment on navigue là-dedans alors ? Il y a des outils spécifiques ?
Oui, il y a des outils. Par exemple, un qui est assez connu, c'est Sherlock. C'est un outil souvent utilisé en ligne de commande qui permet de chercher un pseudo sur plein de plateformes différentes.
Ah oui ! Et ça sert à quoi ?
Ça ne lit pas le contenu des comptes, attention, mais ça aide à voir où un certain pseudo est utilisé. Est-ce que le pseudo d'un forum se retrouve sur Twitter, sur GitHub, sur Instagram ? Ça permet de connecter les points, de cartographier une présence numérique.
D'accord, pour faire des liens.
Voilà. Un autre exemple, c'est WhoPostedWhat. C'est un outil web qui permet d'explorer les publications publiques sur Facebook en cherchant par date et par mots-clés. C'est souvent plus pratique que la recherche interne de Facebook pour, par exemple, remonter le fil d'un événement sur une période donnée.
Ça a l'air pratique, mais il y a des limites, j'imagine.
Bien sûr, ça ne voit que ce qui est public, évidemment. Et Facebook n'aime pas trop ce genre d'outils, donc il peut y avoir des blocages si l'utilisation est trop intense. Faut être prudent.
Et c'est là qu'on arrive au point sensible, l'éthique. Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est quoi les lignes rouges à ne jamais franchir ?
Ah oui, c'est fondamental. Les lignes rouges sont claires. Premio, ne jamais usurper une identité pour avoir accès à de l'info. C'est illégal et totalement contraire à l'éthique au SINT.
D'accord.
Secondo, ne pas essayer de contourner les paramètres de confidentialité. Ce qui est privé doit rester privé. Tertio, respecter les lois sur la protection des données comme le RGPD en Europe. C'est incontournable.
Et les conditions d'utilisation des plateformes ?
Exactement. Il faut les lire. Certaines, comme LinkedIn par exemple, interdisent très clairement le scrapping, c'est-à-dire l'extraction automatique de données de profil. Ils peuvent fermer les comptes qui font ça.
Donc l'idée, c'est pas du tout de pirater, mais d'utiliser intelligemment ce qui est public ou accessible légalement en restant dans les clous.
C'est tout à fait ça. La finesse, l'intelligence de la collecte, dans le respect des règles. Les outils, c'est bien, mais c'est l'analyse critique et le jugement éthique qui priment.
Il y a une citation intéressante dans les sources à ce sujet ?
Oui, celle-ci. Dans le monde de l'OSINT, les réseaux sociaux sont une jungle. Les bons outils sont vos machettes, mais c'est votre éthique qui vous sert de boussole.
J'aime bien l'image de la boussole, ça résume bien.
Oui, sans cette boussole éthique, on risque de se perdre et de franchir des limites.
Bon alors, on a vu les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, mais Que l'info vienne de l'un ou de l'autre, il reste une étape absolument essentielle, la vérification.
Le socle, oui, on ne peut pas s'en passer.
Pourquoi est-ce si vital de vérifier? L'image de la bibliothèque sans bibliothécaire revient ici, j'imagine.
Tout à fait. Si on ne vérifie pas, on risque de construire toute une analyse sur du vent, de propager des fake news, d'engager sa propre responsabilité, voire d'avoir des problèmes légaux selon le contexte.
Le fact-checking, c'est pas juste un truc de journaliste alors?
Non. En OSINT, c'est une compétence de base, un réflexe de tous les instants. C'est intégré au processus.
Et comment on fait concrètement pour vérifier? Il y a une méthode?
Oui, on peut dire qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels s'appuyer. Le premier, c'est toujours essayer d'identifier la source originale. D'où vient l'info? C'est un article de première main, un communiqué officiel, le post initial, il faut remonter le fil. Pas juste se fier à un partage ou une citation.
D'accord, remonter à la source.
Deuxième pilier, vérifier la date. Une info peut être vraie, mais complètement périmée et utilisée hors contexte pour tromper. Il faut regarder la date de publication, affichée bien sûr, mais aussi chercher d'autres indices. Dans le contenu, dans les métadonnées, si on peut, date de upload d'une vidéo, etc. Et attention aux dates de repartage sur les réseaux sociaux, ça peut être trompeur.
Le recyclage de vieux contenus, oui.
Troisième pilier, c'est un peu la règle d'or. Chercher des confirmations croisées auprès de sources indépendantes. Ne jamais se fier à une seule source, surtout si elle n'est pas très fiable a priori. Il faut activement chercher si d'autres sources crédibles, agences de presse, institutions, ONG reconnues, confirment l'information.
Et se méfier des sites qui se citent en boucle.
Exactement. Se méfier des chambres d'écho. Plus les sources qui confirment sont diverses et indépendantes, plus l'info est solide.
Logique. C'est un peu comme en journalisme, en fait.
C'est le même principe, oui. Quatrième pilier, se méfier du sensationnalisme. Les titres tout en majuscules, l'abus d'emoji pour faire réagir cocotte comme tes tic-tac, le manque de sources claires, les histoires trop belles ou trop choquantes, ce sont des signaux d'alerte. L'OSINT demande de garder la tête froide.
La neutralité émotionnelle.
C'est ça. Un contenu qui cherche trop à provoquer une réaction, il faut le regarder avec encore plus de scepticisme.
Et le dernier pilier?
Le cinquième pilier, c'est la vérification spécifique des images et des vidéos. C'est devenu crucial avec les deepfakes, les montages faciles. Une image, une vidéo peut être réelle, mais utilisée totalement hors de son contexte original, géographique ou temporel.
Et là, on a des outils aussi.
Oui, les outils de recherche d'images inversées sont essentiels. Google Lens, Yandex Images, Bing Visual Search. Ça permet de voir où et quand une image a déjà été publiée. Pour les vidéos, il y a des extensions comme InEvid ou WeVerify qui aident à découper la vidéo en images clés pour faire cette recherche inversée et parfois analyser les métadonnées. Ça démontre très vite beaucoup d'intox visuels.
C'est puissant. Donc au final, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il faut adopter une sorte de doute systématique.
Oui, un doute méthodique, c'est une bonne expression. Ne pas croire juste parce que ça a l'air plausible ou que ça confirme ce qu'on pense déjà. Toujours chercher des preuves, des faits vérifiables.
Et noter comment on a vérifié pour être transparent.
Absolument. Documenter son processus de vérification, c'est clé pour la fiabilité du travail final.
Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, on a vu comment affûter nos recherches sur les moteurs pour aller plus loin que la surface.
Oui, avec les opérateurs et en variant les sources.
Ensuite, comment aborder les réseaux sociaux, cette fameuse mine d'or piégée, avec des outils, mais surtout avec une éthique comme boussole.
Indispensable, l'éthique.
Et enfin, et surtout, comment on construit la confiance dans ce qu'on trouve, grâce à une vérification rigoureuse, étape par étape.
C'est ça.
Finalement, ce ne sont pas juste des techniques d'enquêteurs pro, mais de plus en plus des compétences utiles pour tout citoyen à l'ère numérique, non?
C'est exactement le point. Aujourd'hui, trouver de l'information, c'est facile techniquement. Ce qui est difficile, et ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à évaluer cette information, à la critiquer, à la valider. C'est ça qui transforme un tas de données brutes en renseignements fiables.
En véritable connaissance.
Voilà. Et ça pose une question plus large. Au-delà du travail, comment on intègre cette vigilance, ce réflexe de vérification dans notre façon de consommer l'info tous les jours? C'est un défi permanent pour chacun.
Il y avait une autre citation sympa dans les sources pour conclure là-dessus.
Ah oui, celle du Jedi OSNT. Dans le cyberespace, ce n'est pas l'information qui manque, c'est l'information fiable. Le fact-checking est l'arme du Jedi OSNT. Poupou.
Un clin d'œil amusant, mais qui dit bien l'importance de la chose.
Tout à fait.
Et pour finir, peut-être une petite réflexion qui va un peu au-delà de nos sources du jour. Est-ce qu'en apprenant à mieux évaluer l'info qui vient de l'extérieur, avec ces techniques OSINT, ça nous aide aussi peut-être à être plus conscients de nos propres biais, de nos propres filtres quand on reçoit une info qui nous plaît ou qui nous dérange?
C'est une excellente question. Apprendre à vérifier les autres pour aussi apprendre à mieux se connaître soi-même face à l'info.
Voilà, une piste à méditer. En tout cas, c'est la fin de notre exploration de ces techniques fondamentales de l'OSINT. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.